la patience, l'endurance, la persévérance. Ça, c'est la première grande leçon. La deuxième chose, c'est qu'en effet, ça, qu'est-ce que vous voulez, on le sait depuis notre baptême, la vie chrétienne consiste à marcher à la suite du Christ. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'Évangile où le Christ donne trois conditions effrayantes. Porter sa croix, préférer le Christ à sa famille et abandonner tous ses biens. Enfin bon, je l'expliquerai une autre fois. Mais il le dit pourquoi ? Pourquoi faire ? Pour le suivre. La vie chrétienne, c'est suivre le Christ, c'est être en marche. Un chrétien qui a des certitudes définitives n'est plus chrétien. Il n'est plus en marche. Il a la vérité, il est arrivé. Il n'est plus chrétien. D'ailleurs, il n'est plus grand-chose. Les gens qui ont la vérité, vous savez... Et nous, chrétiens, depuis notre baptême, nous savons que nous ne sommes pas chrétiens, mais que nous le devenons. Le baptême inscrit en nous une vocation, un appel, un devenir chrétien. Nous devenons chrétiens. Et la marche nous le dit bien. On est toujours dans l'existence, on est toujours en marche. Le jour où on ne marche pas, on commence à s'asseoir, les choses vont mal. Je ne parle pas au sens physique, bien sûr, mais au sens intellectuel, psychologique, spirituel. À partir du moment où on pose son cul, on est foutu. Ça rime, apprenez-le par cœur. C'est aussi simple que ça, et c'est la vie chrétienne. Voilà. La troisième chose que nous apprend la marche, et là aussi, je ne vous apprends rien, tout le monde en a fait l'expérience, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Dans une randonnée, vous savez, vous partez peut-être pour Saint-Jacques-de-Compostelle, alors là, ça a un mois, deux mois de marche, oula, peut-être vous partez pour une semaine, mais même si vous partez pour une journée, vous le savez, par expérience, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où la chaleur vous accable, vous en avez marre, vous vous dites, mais pourquoi je suis parti ? On est tellement bien à glander auprès de la piscine, à rien foutre et à prendre du gras. On est tellement bien. Vous savez tous qu'on n'est pas bien, qu'on est en train de se pourrir. Mais n'empêche, les tentations, voilà. Et puis, il y a des moments où la côte est dure. Et puis, il y a des moments d'exaltation. Vous êtes arrivé à un col, le paysage s'ouvre devant vous. Vous avez l'impression d'être en communion avec cette espèce d'absolu qui s'offre gratuitement. Vous en profitez, généralement, on se tait. C'est génial. C'est l'image de la vie. C'est l'image de la vie. Dans notre vie, même la vie chrétienne, et même la foi, il y a des moments où vous avez envie de poser la valise, et vous en avez marre. Vous en avez marre de vos engagements, vous en avez marre de vos gosses. Peut-être parfois même dans la conjugalité. Il y a des moments où ça ne va pas. Est-ce que c'est mal ? Mais non, c'est pas mal. C'est la vie. Et la marche nous l'apprend. La marche nous apprend que c'est la vie. C'est comme ça. Alors quand ça va mal, quand on est dans une côte avec 35 degrés, un sac à dos qui pèse trop lourd, votre gourde est vide, on le sait, c'est en haut qu'est la récompense. Il faut persévérer, il faut s'entraîner. Et la marche, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait singulier. C'est une micro-expérience de la vie dans sa totalité. Et il faut savoir en tirer la leçon. Et il faut savoir, c'est pour ça que ça peut être un pèlerinage, il faut savoir que même dans les difficultés de la foi, Dieu n'est pas absent. Et donc vous avez tout à fait le droit, sur le plan de la foi, sur le plan de vos convictions, d'être dans le creux de la vague. Vous en avez le droit, c'est la vie, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est ainsi. Par contre, il ne faut jamais abandonner. Voilà pour le pèlerinage. Alors nous, vous savez, on va faire un tout petit pèlerinage de rien du tout, puisqu'on fera pas, on va pas faire 20 km, on va en faire 2 fois 3, 3,5. Vous allez me dire, c'est une rigolade, c'est à peine le temps de s'échauffer dans un footing. C'est le symbole qui compte, bien sûr. Et nous allons aller à Vanves. Alors voilà, c'est le deuxième point que je voulais vous expliquer, nous allons aller à Vanves. C'est quoi ce trou pour Aves ? Mais si, ça existe, Vanves. C'est une ville, c'est pas un village, c'est une ville qui jouxte Paris et Issy-les-Moulineaux. Hier soir, c'était rigolo, j'ai sorti cette vanne qui m'amuse beaucoup. Et il y avait quelqu'un de Vanves dans l'assemblée. qui m'a dit « Vanves n'est pas un trou pour Havre !» Non, non, c'est un charmant, une charmante banlieue. Mais à Vanves, pourquoi Vanves ? Eh bien parce que nos évêques, qui ont répondu à l'appel du pape François, c'était en novembre dernier, nos évêques ont, tous les évêques du monde entier, ont cherché sur leur diocèse des lieux un peu symboliques. Alors évidemment, quand vous êtes évêque d'Autun, il n'y a pas de problème. Vous avez des églises romanes partout, vous avez des choses extraordinaires, pèlerinage à Vézelay, bon, c'est facile. Mais chez nous, à Paris aussi, c'est facile. Eh bien, dans le 92, il a choisi, entre autres, Vanves, parce qu'à Vanves, il y a un monastère. Ah, c'est le seul monastère du diocèse de Nanterre. Avant, il y avait le Carmel. Il y avait un Carmel à Clamart. Mais maintenant, il n'y a plus qu'un seul monastère avec des bénédictines, et il est à Vanves. Et l'évêque a voulu, Monseigneur Aupetit, a voulu désigner ce lieu comme lieu de pèlerinage. Pourquoi ? Ça, je vous le réexpliquerai, évidemment, dimanche prochain. Mais c'est parce que implanter une communauté de moniales au cœur de la ville, ça veut dire qu'au cœur de nos existences, aussi fourmillantes, dispersantes soient-elles, il faut le temps du recueillement, le temps de la halte, le temps de se reposer. Un monastère en est l'image efficace. Et donc, nous irons là-bas, à Vanves. Alors, les sœurs présenteront un peu ce que c'est que leur communauté. Et puis, moi, je vous présenterai aussi cette architecture, parce que c'est une architecture exceptionnelle d'un moine, un moine architecte, Dom Bello, qui a beaucoup construit, qui a construit des choses vraiment, vous allez voir, soignées, soigné jusqu'au détail, jusqu'aux poignées de porte et aux boutons de lumière. Enfin, je vous montrerai tout ça si on a le temps. Parce que vous savez, moi, en architecture, le problème, c'est que quand je pars, il faut que je m'arrête. D'ailleurs, ça y est, j'arrête, je ne parle plus d'architecture. Troisième chose importante quand même à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées là-dessus, c'est quoi cette histoire de porte sainte ? Il y a beaucoup de gens qui me posent la question en soupirant. Ils ont raison. C'est quoi encore ce truc un peu, ça fait un peu, qu'est-ce que vous voulez, magique, Harry Potterien. Vous voyez, une porte, c'est, ou alors un peu superstitieux. Il faut collectionner le passage des portes saintes, comme ça on accumule des grâces. Oh, évidemment, vous avez raison de soupirer, c'est pas ça. C'est tout simplement, porte sainte, c'est la porte qui est importante. C'est la valeur symbolique de la porte. Et c'est le pape lui-même qui a donc proposé qu'il n'y ait pas qu'une seule porte sainte à Rome. Qui va aller à Rome faire un pèlerinage pour passer une porte ? Mais il a voulu faire comprendre à tous les chrétiens du monde que c'était un symbole, et que ce symbole, c'est d'abord la parole du Christ qui dit de lui-même « Je suis la porte ». Ah, « Je suis la porte », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est par moi que vous accédez au Père. Et le symbole de la porte est absolument extraordinaire. Regardez, par exemple, quand vos sales gosses sont en colère, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben oui, ils claquent la porte. Bon, ils vous pompent l'air par tout un tas d'autres trucs, mais on claque la porte. Et regardez quand vous êtes, après une journée saturée de boulot, et vous avez été tous azimuts, vous vous êtes donné, ça a été dur, réussite ou pas réussite, vous rentrez chez vous le soir et vous fermez sur vous la porte. Et cette qualité symbolique de la porte, à la fois le repos, ou bien, au contraire, la rupture. Claquer la porte, ça veut dire « j'ai plus rien à voir avec toi ». Entre toi et moi, dorénavant, clac, une cloison. Voilà. Fermer sur soi la porte, ça veut dire « enfin, ouf, je suis chez moi ». La porte, c'est une valeur symbolique extraordinaire. Et puis, dans la tradition de l'Église, saint Augustin en a beaucoup parlé, mais c'est presque une lapalissade. La porte, c'est ce qui vous fait passer de dehors à dedans. C'est ce qui vous fait passer de l'extérieur à l'intérieur. C'est ce qui vous fait passer de la dispersion, de l'affairement, de l'émiettement au recueillement. Ah, c'est ce passage-là qui est important à signifier par ces portes saintes, ces portes de la miséricorde. Ça veut dire que la première miséricorde que nous ayons à vivre, il faut que nous essayions d'acquérir la certitude que nous valons par l'être intérieur, que ce qui est le plus important en nous, c'est pas la réussite à nos examens, c'est pas notre compte en banque, c'est pas notre carrière. Ce qui est le plus important en nous, c'est l'hôte intérieur, dit saint Augustin. L'hôte intérieur, quelle belle expression. En latin, il y a le même jeu de mots qu'en français. Hein. L'hôte, c'est l'hôte. C'est-à-dire celui qui reçoit ou celui qui reçut. Chambre d'hôte. Et c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. C'est-à-dire, saint Augustin insiste en disant, quand vous passez la porte de la dispersion et que vous vous recueillez, vous êtes accueilli par un autre que vous-même, qui est déjà au-dedans de vous. Fantastique, l'hôte intérieur. Quand vous descendez en vous-même, en fait, vous êtes reçu par celui qui est déjà là. Votre vérité, elle est toute intérieure. Votre vérité, ce n'est pas les choses que vous faites dans l'existence, ce n'est pas les choses que vous montrez aux autres. Votre vérité, elle est toute intérieure. Et pourquoi est-elle toute intérieure? Ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas vos sentiments, c'est la présence de Dieu, l'hôte intérieur. Et la porte devient, je suis la porte, dit Jésus, la porte devient ce passage vers ce qui est le plus important en nous. Et faire un pèlerinage, passer une porte, c'est tenter de vivre en micro-temps, si j'ose dire, ce que toute notre vie déploie. Donc voilà, nous allons partir, vivre ce pèlerinage. Alors, on ne va pas marcher beaucoup. Passer la porte, ça ne va pas vous donner des frissons. Vous n'allez pas être tout d'un coup saisi par la grâce du Très-Haut. Vous voyez, ce n'est pas Harry Potterien. Vous n'allez pas tout d'un coup vous transporter dans un autre monde. Mais c'est particulièrement symbolique au monastère de Vanves parce que, d'abord, nous serons accueillis dans le monastère, ensuite nous rentrons dans l'église, et une deuxième intériorité, le premier monastère, deuxième l'église, et puis de l'église, nous allons au cœur du cœur d'un monastère, dans le cloître. Et c'est là la porte de la miséricorde. Dieu nous fait cette miséricorde de pouvoir accéder au plus intérieur de nous-mêmes, au plus vrai de ce que nous sommes. Eh bien, nous allons le vivre en quelque sorte dans l'architecture, en rentrant dans le cloître. Alors, c'est une exception, vous savez, il a fallu que les sœurs acceptent. Le cloître, en principe, c'est strictly verboten. Et là, on va pouvoir accéder au cœur d'un monastère. C'est probablement pour nous rappeler cette vocation, que nous sommes convoqués au cœur, à l'essentiel, au plus intérieur de nous-mêmes, à celui qui a décidé d'établir sa demeure en nous.